Vous connaissez peut-être l'histoire de Roméo et Juliette, les fameux amants maudits de Shakespeare. Afin de tromper sa famille et de pouvoir s'enfuir avec son amoureux, Juliette avale une potion qui lui donne l'apparence d'être morte. Ensuite, et avec l'aide d'un prêtre, elle compte rejoindre Roméo plus tard. Mais sans avoir connaissance du stratagème, un ami mutuel annonce à Roméo la mauvaise nouvelle. Juliette est morte. Quand ils se rendent compte de ce qui se passe, le prêtre écrit une lettre à Roméo. Mais la lettre n'arrive pas à temps. C'est trop tard. Roméo, dans son chagrin, avale une poison et il meurt. Ensuite, une fois réveillé de son sommeil profond, Juliette apprend que Roméo est mort et à son tour, elle met fin à sa propre vie aussi. Quelle tragédie, n'est-ce pas? C'est horrible ça. L'histoire finit mal pour tout dans cette histoire à cause d'un problème de communication. N'est-ce pas? C'est un problème de communication. Bien sûr, les malentendus, les mauvaises communications, ça n'arrive plus aujourd'hui grâce à l'iPhone, grâce à l'Internet, n'est-ce pas? Grâce à nos médias qui sont vraiment infaillibles. Pas de chance, en fait, sur ça. Mais cette histoire, en tout cas, nous montre l'importance de la bonne communication entre les gens. Nous vivons dans un monde hétéroclite, avec une grande diversité de langues et de cultures. Et en tant qu'êtres humains, nous avons des problèmes de communication des fois. C'est évident. Mais pour pouvoir bien communiquer, notre seul espoir, c'est d'avoir des paroles claires et vraies. En revanche, et c'est pas étonnant, Dieu n'a pas de problème de communication. Il dit ce qu'il veut, quand il veut et comment il veut. Dieu parle des manières diverses. Il parle à travers des anges. Il parle par ses prophètes, on voit dans la Bible. Il a parlé une fois dans un buisson en feu. Il parle dans des visions et des rêves. Il a parlé en gravant sa loi sur des tablettes en pierre. Il a parlé à travers un âne une fois. Il a parlé à travers un roi païen. Il est évident que Dieu n'a pas de problème de communication. Il trouve toujours une façon de parler aux hommes. Mais de tous ces messages que je viens de mentionner, le message le plus spectaculaire, le message le plus extraordinaire, le plus original, a été livré dans une étable, dans un petit village de Judée, il y a 2000 ans. Dieu nous a parlé. On va lire donc Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Avant d'aller plus loin, je vous invite à la prière. Notre Dieu, tu nous as parlé, alors aide-nous à comprendre et à appliquer ta parole ce soir. Nous savons que tu dis la vérité. Nous savons que ta parole est vivante et efficace. Et nous savons que tu nous as donné la parole de vie, que cette parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, nous te prions de rendre ta parole fructueuse dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Dieu nous a parlé. Dieu nous a parlé. Alors, je voudrais souligner deux choses dans ce texte ce soir. D'abord, Dieu parle d'une manière extraordinaire. Dieu parle d'une manière extraordinaire. Regardez le début de ce texte. Après avoir parlé à travers les prophètes, Dieu change de méthode. Il parle par son Fils. Le texte nous dit que Dieu a parlé d'une manière visible et tangible. Ce message de Dieu n'était pas constitué de mots obscurs, des paroles abstraites. Mais par le Fils, toute la puissance, toute l'autorité de Dieu se manifeste. Toute la grâce, toute la justice, tout l'amour, toute la sagesse, toute la miséricorde de Dieu se manifeste. Quand le verset 2 nous dit que Dieu nous a parlé par le Fils, ça exprime l'idée que l'on trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 1, où il est dit « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. » La parole de Dieu est puissante. C'est en parlant que Dieu a créé. C'est en parlant que Dieu a fait des promesses. C'est en parlant que Dieu nous a donné sa révélation, la Bible. C'est en parlant à notre cœur et à notre esprit que Dieu fait de nous ses enfants. Mais en Jésus-Christ, la parole faite chair, Dieu nous a parlé d'une manière plus profonde que tout ce que nous pourrions imaginer. Les religions du monde nous disent que leurs dieux ont parlé. Pour certains, un dieu leur parle dans un livre saint. Pour d'autres, des dieux parlent à travers des traditions orales. Et pour d'autres encore, c'est par la méditation que nous recevons la révélation divine. Pour certains athées même, Dieu, c'est la nature. Et ce Dieu parle par les outils de la science matérialiste. Mais vous voyez, en tant que chrétien, nous avons une parole plus importante et bien meilleure. On a la parole faite chair, Dieu lui-même. Ça nous montre que quand on parle, les mots sont importants. De même, l'auteur des mots est important. Mais celui qui transmet les mots est aussi important. Imaginez un couple qui veut se marier. Le jour de leur mariage arrive. Tous les invités s'assemblent dans l'église et le pasteur débute la cérémonie. Et vous, monsieur un tel, voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle une telle et l'aimer pour toujours? Et le mari répond, bien sûr, oui, je le veux. Le pasteur continue, et vous, mademoiselle, voulez-vous prendre monsieur un tel pour époux et l'aimer pour toujours? Quelques secondes s'écoulent, mais il n'y a pas de réponse. En fait, il n'y a pas de réponse parce que mademoiselle une telle n'est pas présente. Elle n'est pas là. Mais ne vous inquiétez pas, elle a laissé un mot et elle a écrit « Oui, je le veux ». Ça marche, n'est-ce pas? Pas vraiment. Cette parole manque de substance. Elle manque de tangibilité. Elle manque de crédibilité parce qu'il n'y a presque rien de réel derrière cette promesse. De même, sans Jésus, sans la parole qui a été faite chair, qui a habité parmi nous, sans Jésus, toutes les promesses de la révélation de Dieu manquent de crédibilité. Sans Jésus, l'homme-Dieu, le plan rédempteur de Dieu, sonne creux. Il n'y a pas vraiment d'espoir. Dans le passé, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes, à plusieurs manières et à plusieurs reprises. Il a parlé avec vérité, il a parlé avec autorité. Et tout ce qu'il a dit est vrai et utile pour notre édification. Mais une nuit à Bethléem, dans une étable, dans une crèche entourée d'animaux, Dieu nous a parlé d'une manière extraordinaire. Dieu nous a parlé par le Fils. J'ai lu récemment un article dans un journal scientifique. Le titre était « La science prouve que la conception virginale est impossible. » La science prouve que la conception virginale est impossible. Le but était de choquer, je pense, une petite gifle adressée aux chrétiens. Mais on est tous déjà d'accord sur cette question, n'est-ce pas? Dans la nature, nous savons déjà qu'une femme ne peut pas procréer toute seule. Nous savons comment ça marche, la reproduction, n'est-ce pas? Joseph, l'époux de Marie, savait comment ça marchait la reproduction. C'est pourquoi l'évangile de Matthieu nous dit que Joseph avait envie de rompre son engagement parce qu'il pensait que Marie était enceinte de quelqu'un d'autre. Bien sûr, la conception virginale est impossible. Mais le fait que la nature rende impossible la conception virginale ce fait nous montre tout simplement que Dieu part d'une façon extraordinaire. Un Dieu tout-puissant peut faire ce qu'il veut dans sa création, n'est-ce pas? C'est pourquoi on emploie le mot « miracle ». La conception virginale est impossible s'il n'y a pas de Dieu. Mais Dieu a agi dans sa création d'une manière extraordinaire. Dieu nous a parlé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Deuxième point. Dieu parle pour nous annoncer notre salut. Dieu a confirmé ses promesses à travers la naissance, la mort et la résurrection de son Fils. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que ce que Dieu dit est lié à ce qu'il fait. Le verset 2 nous dit que Dieu a parlé par le Fils. Mais dans les versets suivants, on ne découvre pas un discours éloquent ou un bel exposé en trois points. Par contre, ce qu'on découvre, c'est une liste de qualités et d'actes propres à Jésus. Je vais souligner brièvement les sept choses mentionnées dans les versets 2 et 3. Premièrement, Jésus est héritier de toutes choses. Ce qui veut dire que tout l'univers, tout l'espace-temps, le monde physique, le monde spirituel, lui appartiennent. C'est-à-dire que toute la création lui appartient. Il exerce son autorité sur tout ce qui existe. Dieu nous a parlé par l'héritier du monde. On voit deuxièmement que le Fils est le moyen par lequel l'univers a été fait. Il est créateur. Au commencement était la parole, et tout a été fait par elle, dit l'évangile de Jean chapitre 1. Dieu nous a parlé par le Créateur. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux ajoute troisièmement que le Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu. Vous souvenez-vous de la puissance éblouissante de la gloire de Dieu qui a transformé le visage de Moïse en lumière rayonnante? Vous souvenez-vous de la puissance éblouissante de la gloire de Dieu que le prophète Ésaïe a vue? Vous souvenez-vous de sa peur? Malheur à moi, dit-il, un pécheur, car mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Comme l'éclat du soleil est inséparable du soleil, de même le rayonnement du Fils est inséparable du rayonnement du Père. Dieu nous a parlé par le rayonnement de sa gloire. On ne s'arrête pas là. Quatrièmement, le Fils est aussi l'expression de l'être de Dieu. Plus qu'une image de Dieu, plus qu'un symbole qui représente Dieu, le Fils est une expression exacte de Dieu. On lit dans l'Épître aux Philippiens chapitre 2 que la condition de Jésus était celle de Dieu, qui n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. En fait, Dieu nous a parlé par son expression exacte. Et cinquièmement, dans la suite du verset 3 de notre texte, nous voyons que Jésus soutient toute chose par sa parole puissante. Il est plus puissant que les dieux de la mythologie, comme Atlas qui porte le monde sur ses épaules. Jésus fait mieux que ça. Par sa parole, la parole soutient et préserve toute sa création. Dieu nous a parlé par celui qui soutient toute chose. Et celui qui soutient toute chose, sixièmement, est aussi celui qui réalise la purification des péchés. Quand le monde que Dieu a créé a chuté dans la rébellion, dans le péché, Dieu n'a pas simplement laissé tomber son plan. Il n'y a pas de plan B pour notre Dieu. Mais comme il avait décrété de toute éternité, il a pris sa création, il a restauré par la mort sacrificielle de Jésus sur la croix. Dieu nous a parlé par son Fils qui nous purifie de nos péchés. Et enfin, septièmement, Jésus a été élevé dans les lieux célestes, où il s'est assis à la droite de son Père. Et le fait qu'il se soit assis indique qu'il a accompli sa mission. Il règne maintenant avec autorité. Dieu nous a parlé par son Fils exalté qui règne sur toutes choses. Quand on regarde ces sept qualités du Fils, il est évident que les actes parlent plus fort que les mots. Et Dieu le Père a parlé très fort dans son Fils Jésus. C'est peut-être difficile d'imaginer tout ça quand on pense à Jésus, le petit bébé tout mignon qui dort paisiblement sur la paille. Mais je vous encourage, pendant cette saison de Noël, de bien réfléchir aux qualités et aux actes de Jésus qui sont mentionnés dans ce texte. Parce que si vous êtes chrétien, vous êtes entre les mains du Créateur de l'univers et du Sauveur glorieux et exalté qui dirige et qui soutient le monde par son règne puissant. Mais si vous n'avez pas reçu cette parole qui est Jésus, vous avez toutes les raisons de désespérer parce que vous vous opposez au roi éternel. Quand Dieu nous parle, ça peut être réconfortant et rassurant. Ça peut être aussi un sérieux avertissement. Dieu nous a parlé. Et c'est à nous à écouter. Alors cette parole de Noël est pour nous tous. Et la parole de Noël, la voici, c'est que Dieu nous a parlé par son Fils. Il nous a donné un message d'espoir. Il a communiqué le salut. La bonne nouvelle est là. Venez encore, et écoutez cette parole. Si vous êtes déjà croyant, vous avez la responsabilité de lire la parole de Dieu régulièrement. L'Épître aux Hébreux chapitre 2 nous dit, c'est pourquoi nous devons prêter une plus vive attention à ce que nous avons entendu, de peur d'aller à la dérive. C'est la parole de Dieu qui nous nourrit. Les plantes qui ne reçoivent pas la pluie ne produisent pas grand-chose, n'est-ce pas? De même, les chrétiens qui n'écoutent pas la parole ne produisent pas grand-chose. Alors, écoutez Dieu. Si vous êtes non-croyant, agnostique peut-être ou sceptique, je vous encourage aussi à écouter la parole et à réfléchir à la vie que Dieu vous offre. On ne peut pas rester dans la boue du scepticisme. Il faut trouver un terrain plus solide. Il n'y a rien de plus solide que les promesses de Dieu vivant. Si vous êtes parent, c'est à vous de transmettre la parole à vos enfants. On fait manger nos enfants, n'est-ce pas? On habille nos enfants, n'est-ce pas? On doit aussi leur transmettre la parole qui mène à la vie. Et pour le reste, si vous êtes un être humain, j'imagine que tout le monde là est un être humain. Mais pour le reste, il faut comprendre une chose, c'est que Dieu nous parle. Dieu nous parle. Mais oserions-nous ignorer ce qu'il nous dit? Si vous voulez entendre une parole profonde qui guérit, une parole qui fait vivre et qui transforme, je vous invite à venir au petit village de Bethléem. Venez entrer dans cette étable mal éclairée. Passez au milieu des brebis et des chèvres. Essayez d'ignorer la mauvaise odeur. Et faites attention, bien sûr, où vous mettez des pieds. Mais regardez, là, dans le coin, où s'assemblent les bergers. Regardez là, il y a une crèche. Regardez dedans, voyez, Dieu nous a parlé. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions de comment tu nous as parlé, par ta parole faite texte, la Bible, et par ta parole faite chair, en Jésus. Nous te remercions de comment tu as révélé ton plan rédempteur dans l'histoire, de comment cette révélation nous pointe vers Jésus, la révélation ultime. Guide-nous, Seigneur, afin que nous mettions notre confiance en ta parole et en tes promesses. Au nom de Jésus. Amen.